gloire au Seigneur. Ce soir, c'est donc le troisième volet d'une série d'études bibliques que je conduirai tout au long de l'été sur les dons que le Seigneur nous accorde, non pas pour notre bénéfice, mais pour le service. À chacun un don, à chacun un service. Et nous avons déjà vu qu'il n'existe pas simplement un type de don ou un don, mais le Nouveau Testament met en évidence l'existence d'au moins trois classes de dons accordés par le Seigneur en vue du service. Nous avons parlé des dons spirituels, certainement parmi les plus connus, qui sont exercés, qui peuvent être exercés par tous ceux qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et qui aspirent à les exercer. Nous les trouvons dans 1 Corinthiens 12. Nous avons parlé des dons d'intendance, des dons de fonctionnement dans l'Église de Jésus-Christ, Romains chapitre 12, ceux-là sont moins connus. Nous y viendrons plus tard au mois d'août, nous y arrêterons particulièrement parce que je crois que ça correspond exactement à ce que beaucoup au milieu de nous aspirent, le désir de servir Dieu avec un appel qui est là, mais qui ne correspond pas forcément à la prédication de la parole, au pastorat. Mais pourtant, il y a quelque chose de puissant dans leur cœur et on verra que certainement ça a à voir avec les dons d'intendance de Romains 12. Et puis, nous avons parlé de ces dons-ci qui sont bien connus, les dons qu'on appelle ministères-dons, les dons de la parole et de la gouvernance de l'Église que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 4. Et ces dons sont au nombre de 5. Rappelez-vous, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et la semaine dernière, j'ai mis en évidence qu'on peut faire deux sous-classes de cette grande classe des ministères-dons, avec d'un côté les deux ministères de fondation, apôtres et prophètes, et puis de l'autre côté, ce que nous allons voir ce soir, les ministères d'édification, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous avons dit la semaine dernière l'importance des ministères d'apôtres et de prophètes qui viennent pour poser les fondements, et on sait combien les fondements, les fondations d'un édifice sont importants, et qui viennent aussi pour communiquer une vision pour l'Église, pour l'avenir de l'Église. Ces ministères ne sont pas là pour rester sur le long terme, ils sont là pour travailler à un temps, à établir, à structurer, et puis ensuite le Seigneur peut les amener au loin, mais souvent, sinon tout le temps, ils garderont, parce que ça fait partie de leur ministère, un lien que Paul qualifie même de paternel, avec l'Église qu'ils ont contribué à développer, à implanter, à faire démarrer, et on parle alors de couverture apostolique. Donc, ces ministères posent le fondement, et puis bien sûr, et bien après, il faut travailler, parce que la maison, l'édifice, ce n'est pas simplement les fondations. Les fondations, nous l'avons dit, disent malgré tout ce que pourrait être la construction. Elles nous disent, par exemple, ce que pourrait être la superficie de la construction quand on regarde à l'étendue de la fondation. Et si la fondation est épaisse, si elle s'enracine profondément en terre, on peut soupçonner qu'il y a un projet de construire en hauteur, d'avoir des étages. Si la fondation est toute fine, alors on se dit, oh, certainement, ça n'ira pas bien loin. Donc, les fondations nous disent quelque chose, nous disent qu'elle est peut-être le projet à venir. Mais bien sûr, elles ne nous disent pas ce que sera la forme finale de la maison, ce que sera la construction finale de la maison. Alors ce soir, nous allons parler de ceux qui sont appelés à bâtir sur le fondement, c'est-à-dire les ministères d'édification. Nous ouvrons nos Bibles, je vous le propose, dans la première aux Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, et on pourra lire à partir du verset 4. Un Corinthiens 3, 4, « Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Alors j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Donc, l'apôtre Paul faisait la distinction entre les ministères de fondation et les ministères d'édification. Quant à lui, il estimait qu'il n'était pas appelé à exercer un ministère d'édification. Dans l'Épître aux Romains, il explique qu'il ne voulait pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il écrit dans Romains 15:20 « Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Donc ça, c'était le travail, le ministère apostolique de Paul. Et il estimait que son ministère était de poser les fondations, mais non pas de travailler l'édification. Ce n'était pas du mépris à l'égard des autres ministères, c'était tout simplement pas son appel. Et il confiait cette tâche d'édification à ceux dont c'était justement l'appel et la qualification, c'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et parmi eux, comme nous l'avons lu ici, il y avait au moins un certain Apollos qui était un docteur de la parole. Ainsi, l'apôtre Paul ne sous-estimait pas la mission des ministères d'édification. Pour lui, ils n'étaient pas des sous-ministères par rapport aux apôtres et aux prophètes. Et il enseigne dans ce texte à ne pas faire de distinction d'honneur entre les hommes et les différents types de ministères. Parce que quelle que soit leur fonction, qu'ils plantent ou qu'ils arrosent, qu'ils posent des fondations ou qu'ils édifient, de toute façon, ils sont tous co-ouvriers avec Christ et ils recevront leur propre récompense pour le propre travail qu'ils auront accompli selon l'appel de Dieu. Donc, ne pensez surtout pas à une histoire de hiérarchie. Paul lutte contre cette idée entre apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les hommes aiment les hiérarchies. Nous aimons les hiérarchies. Et malheureusement, nous savons que dans certaines cultures, l'idée de la hiérarchie est poussée à son comble. Ou alors, on s'affuble de toutes sortes de titres pour essayer d'écraser les autres. Mais absolument pas cette idée ici, chez l'apôtre Paul. Paul ne se considérait pas, il était apôtre, mais ne se plaçait pas au-dessus des autres qui n'étaient pas apôtres. Au contraire, il les appelle ses compagnons. Et je crois que nous devons rester toujours armés de cette idée. Il n'y a pas de structure hiérarchique. Il y a certes des responsabilités, il y a des fonctions, mais au-delà des fonctions, il y a des frères et il y a des sœurs, et ça doit rester ainsi. Une fonction, c'est une chose, mais... Et c'est là qu'on doit comprendre aussi, quand Jésus dit qu'il n'y aura pas de père, il n'y aura pas de directeur. Oui, dans certaines fonctions, on peut être amené à des responsabilités, mais l'homme ne doit pas être habité au point de sa fonction, au point de devenir la fonction lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir une telle responsabilité dans le ministère que finalement, dire « ça y est, j'y suis, je suis chef, je suis directeur, je suis père ». Non, il a sa fonction, mais quand il l'a fini, même s'il garde le ministère, il est un frère. Et ça, c'est toujours l'idée de l'apôtre Paul et sur laquelle nous devons veiller. J'espère que j'étais assez clair sur ce point parce qu'il est tellement important et on voit tellement, tellement de dégâts, hein, de souffrances, parce que des gens sont maintenus dans une espèce de dépendance. Pardonnez-moi, je vais être très fort, mais c'est au moins, ça traduit presque d'esclavage spirituel, asservissement spirituel, où ils sont dans la crainte, dans la peur, jusqu'à parfois se s'appauvrir, parce qu'il faut donner au prophète, à l'apôtre, sinon gare à la malédiction. On est loin de ça avec l'apôtre Paul. D'accord ? Je pense que ça, il fallait quand même le dire. Et Paul, donc, était apôtre, il travaillait aux fondations, et puis il considérait ensuite ses ministères d'édification. Et d'après lui, ils avaient une tâche importante, une tâche de long terme, nous l'avons lu, la tâche de bâtir. Ils devaient bâtir. Lui, en tant qu'apôtre, ne restait pas suffisamment longtemps. Savez-vous quel est l'endroit où Paul est resté le plus longtemps ? À Éphèse, je l'ai entendu, il est resté 3 ans. Mais dans d'autres endroits, comme à Thessalonique, il semblerait qu'il y soit resté pas même un mois. Donc, parfois c'était un peu plus long, parfois c'était très court. À Corinthe, il est resté 18 mois. En tout cas, il ne se projetait pas dans un long terme. Et c'était son ministère. Mais pour bâtir, il faut se projeter dans le long terme. Il faut se projeter dans le long terme, surtout si vous voulez bâtir avec des matériaux nobles, de qualité, des matériaux qui vont résister. Évidemment, si ceux qui bâtissent une cabane, bah, avec du bois, du foin et du chaume, une cabane, peut-être qu'en une semaine, 15 jours, c'est bâti. Mais quelle est la résistance ? Mais maintenant, comme il le dit, s'il faut bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, là, il faut du temps. Il faut du temps pour laisser la parole œuvrer, pour laisser la parole grandir dans les cœurs, pour qu'elle porte du fruit, pour que les gens grandissent à maturité dans leur vie spirituelle, dans leur engagement pour le Seigneur. Et donc, c'est un travail de long terme. Et sont appelés à ça les ministères d'édification. Et ces ministères avaient donc cette double responsabilité de bâtir dans le long terme, ce qui consiste à, premièrement, travailler sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. Paul dit, en tant que sage architecte, il a posé le bon fondement. Et le bon fondement, c'est Christ, la doctrine de Christ. La personne, le ministère, le sacrifice de Christ, là, c'est la pierre angulaire. Vous vous rappelez, comme il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, la pierre angulaire. Et on ne peut pas choisir une autre fondation que la doctrine de Jésus-Christ. Et puis, sur cela, donc, après, il y a la qualité de la construction. Lui, Paul dit, j'ai posé le bon fondement, j'ai fait ma part, mais maintenant, les ministères d'édification doivent travailler avec le même état d'esprit, c'est-à-dire travailler avec les valeurs nobles du royaume de Dieu, l'enseignement de la parole, la prière, la vie de l'esprit, la prédication de la croix, et tout ça, ça prend du temps. Alors, le but poursuivi par ces ministères d'édification est donc de donner corps à la vision établie par les ministères de fondation, apôtres et prophètes, selon les principes transmis par ces apôtres. Ils vont devoir, eux, bâtir et donner vie au projet spirituel que les apôtres et les prophètes portent dans leur cœur et qu'ils ont communiqué à l'Église. Et c'est donc aux évangélistes, pasteurs et docteurs de travailler selon la spécificité et la complémentarité de leur ministère, nous allons le voir, à la réalisation du projet de l'Église. Maintenant, quand je dis que les ministères de fondation ne s'occupent de la fondation, mais pas trop de l'édification, n'oublions pas ce que j'ai dit la semaine dernière. Paul, s'il ne s'impliquait pas directement dans l'édification, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à s'impliquer dans les affaires courantes de l'Église. Ça, il les avait confiées aux serviteurs qui étaient en place, mais néanmoins, il restait là comme un référent, comme un père, capable aussi d'intervenir pour des questions de discipline ou pour un rappel doctrinal. En gros, il exerçait un ministère de couverture pour accompagner ceux qui travaillaient à l'édification de l'Église. Alors, venons-en maintenant à quelques points un peu plus en détail sur ces ministères. Et tout d'abord, je vous invite à aller dans Acte 8. On ne va pas lire le passage en entier, mais on pourra en regarder quelques versets. Et nous allons parler avec le premier de ces ministères d'édification que Paul mentionne dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est-à-dire l'évangéliste. Et au chapitre 8, c'est un chapitre qui est quasiment entièrement consacré à un évangéliste, à un homme, donc Philippe, qui à la base n'était pas évangéliste, mais qui était parmi les sept qui ont été élus à Jérusalem pour servir aux tables, donc les diacres. Dans Éphésiens 4, 11, donc l'évangéliste est le premier nommé des trois ministères d'édification. Ce n'est pas le cas dans 1 Corinthiens 12, 28, puisque dans 1 Corinthiens 12, 28, dit Paul, Dieu a établi premièrement, excusez-moi, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Mais dans Éphésiens 4, ce sont les évangélistes. Et c'est très intéressant de noter quand même que dans ce passage clé, Paul met l'évangéliste en premier, sitôt après les ministères de fondation, tout ça pour nous rappeler que le but du développement et de la croissance de l'Église locale doit rester l'évangélisation et non le seul épanouissement des chrétiens. L'évangéliste, donc, vient en premier dans le ministère d'édification, mais à vrai dire, on le comprend si on se rappelle, vous savez, l'image de la fonction des ministères dans la construction de l'Église. Les apôtres et les prophètes font les fondations, mais après, qui doit venir? C'est l'évangéliste qui apporte les pierres. Il va chercher les pierres dans le monde, les pierres vivantes qu'il donne, qu'il donne la vie par le ministère de la parole que Dieu lui donne. C'est lui qui va chercher les pierres et qui les amène ainsi dans l'Église à qui elles seront confiées ensuite au pasteur. Nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai ? Ça ne veut pas dire que nous sommes tous évangélistes, selon Éphésiens 4, 11. Être évangéliste, selon Éphésiens 4, 11, c'est recevoir un appel et une qualification spéciale de la part de Dieu pour proclamer l'Évangile avec puissance et efficacité. Il y a une marque de Dieu sur ces hommes. Certains vont être des prédicateurs d'église, d'autres des prédicateurs de campagne missionnaire, d'autres des prédicateurs de rue. Certains seront des prédicateurs de foule, d'autres des prédicateurs d'individus, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle que soit la manière dont ils servent, tous les évangélistes ont cette marque de Dieu, cette puissante onction lorsqu'ils prêchent Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Dieu merci, nous avons suffisamment encore d'évangélistes dans nos mouvements, nos assemblées, pour, je l'espère, avoir été au contact de ces hommes. Et quand ils prêchent la croix de Christ, eh bien, c'est toujours des moments très particuliers. Et on sent vraiment là toute la puissance du don que le Seigneur leur accorde. Souvent, puissance qui est de prédication qui est accompagnée de puissance de guérison, de délivrance, et dont beaucoup ont bénéficié, et c'est quelque chose de précieux. Et évidemment, leur ministère consiste à gagner des âmes, mais aussi à travailler à l'établissement d'une nouvelle assemblée. Alors, dans Actes 8, nous avons donc la description du ministère de Philippe. Philippe le diacre, qui deviendra Philippe l'évangéliste. Et voilà quelques points, vous aurez le temps de relire ça plus en détail, et si vous notez, vous pourrez retrouver ces choses. La première chose qui caractérise un évangéliste, c'est l'audace, parce qu'il va là où les autres ne vont pas. L'audace. Philippe a eu de l'audace en ce qu'il a quitté Jérusalem pour aller vers les Samaritains. Il est descendu dans une ville des Samaritains pour y prêcher l'Évangile. Il a cassé des espèces de barrières culturelles, sociales. Il est allé au-delà de ça pour exercer son ministère. Ça, c'est une des marques de l'évangéliste. La deuxième chose, versets 4 et 5, nous le voyons, c'est qu'arrivé dans cette ville, il prêcha Christ. Les évangélistes ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils prêchent Jésus-Christ. Ils le prêchent d'une manière simple, mais d'une manière percutante, d'une manière tranchante et pénétrante. Et c'est ce dont nous avons besoin d'entendre. Versets 6 et 7, comme je le disais tout à l'heure, il est fait mention de signes, de miracles, de délivrance qui accompagne la prédication et c'est ainsi un des signes démontrant la réalité du ministère d'évangéliste. Gloire à Dieu. Verset 6 et verset 12. Verset 12, nous voyons que suite à la prédication de la bonne nouvelle, beaucoup crurent et se firent baptiser. Voilà. L'évangéliste prêche la parole, prie pour les malades, chasse les démons, et puis ensuite il amène ces hommes, ces femmes, gagnés à la foi jusqu'à la conversion, et jusqu'au baptême par immersion. Puis ensuite, nous voyons qu'il eut besoin de la collaboration d'autres ministères. Verset 14, nous découvrons que les apôtres qui sont à Jérusalem entendent parler de ce qui se passe en Samarie, et deux d'entre eux, Pierre et Jean, y descendent. Et lorsqu'ils arrivent, ils vont commencer à vouloir amener les choses un peu plus loin, puisqu'ils vont là parler du baptême du Saint-Esprit. Et ils vont voir que personne n'avait encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vont prier pour eux et il y aura des baptêmes. Après, bon, il va y avoir l'histoire avec Simon le magicien. Mais donc nous voyons la collaboration. D'autres ministères viennent se greffer sur le ministère de l'évangéliste. Que se passe-t-il ensuite pour Philippe ? Eh bien, il a fini son travail. Il quitte le champ d'évangélisation au moment où l'Église commence à se former. L'évangéliste ne cherche pas à structurer, il ne cherche pas à former, il a fini son travail. D'autres prennent le relais, là ce furent des apôtres, mais sinon ça peut être un pasteur, ça peut être un couple qui va rester là pour travailler d'une manière de long terme à l'Église, et l'évangéliste poursuit son chemin pour aller plus loin là où le Seigneur le conduit. Ce que j'aime beaucoup avec Philippe, et je crois que le Seigneur avait vraiment voulu que ça soit mis en évidence dans ce chapitre 8, c'est que Philippe a été à la fois évangéliste des foules en Samarie, mais vous le savez ensuite, il a été évangéliste d'un seul, l'eunuque éthiopien. Et il ne s'est pas dit « je suis un homme des grandes campagnes d'évangélisation, je ne vais que là où il y a des foules, c'est certain ». Mais le Saint-Esprit lui a dit, écoute, tu vas aller vers Gaza, pars sur le chemin, attention, tu ne te trompes pas, le chemin désertique. C'est sûr qu'il y avait des chances d'avoir des foules là. Non, il n'y aurait personne. Mais il n'a pas dit non. Et il y est allé. Il y est allé, tout ça pour rencontrer cet eunuque éthiopien. Quelle rencontre improbable qui ne pouvait être conduite que par le Saint-Esprit. Mais on croit que de cette rencontre, eh bien, la vie a jailli dans là où ce ministre est rentré dans son pays. Gloire à Dieu pour la sensibilité de cet évangéliste. L'évangéliste est donc essentiel dans le développement de l'Église locale pour le travail d'évangélisation à l'extérieur, mais l'évangéliste contribue aussi au perfectionnement des chrétiens. Et le ministère d'évangéliste est un puissant encouragement pour ceux qui sont des témoins de Jésus-Christ sans avoir le don d'évangéliste. Et l'évangéliste est un leader dans le domaine de l'évangélisation. Que c'est de travailler à la suite d'un évangéliste, bien forcément ça entraîne, ça booste et on y va parce qu'il est là, il trace le chemin et c'est beaucoup plus facile de l'accompagner dans ce cas-là. Alors reconnaître, former et promouvoir des évangélistes paraît une évidence. Pourtant, nous le savons, ce sont des ministères en danger d'extinction lorsque les églises s'établissent dans leur confort. Et qu'elles perdent la vision de leur mission première, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Et du coup, ce n'est plus l'évangéliste qui est cité en premier, c'est le pasteur. Et il nous faut nous rappeler toujours de ça, l'évangéliste. L'Église qui faillit à encourager ce ministère cessera de gagner des âmes, comme Dieu le désire. Elle deviendra une Église statique, sans croissance, déconnectée aussi de la ville dans laquelle elle se trouve et au risque même de se replier sur elle-même. Alors nous réjouissons de voir ces dernières années dans nos églises, et particulièrement ici à Bastille, de voir des jeunes gens se lever avec vraiment un appel de Dieu dans leur cœur pour l'évangélisation avec, nous le croyons, un appel d'évangéliste. Nous réjouissons aussi de voir ce que il y a une prise de conscience et un désir vraiment au sein des assemblées de Dieu en France de mieux tenir compte de la spécificité de ces ministères dans le cadre de leur parcours de formation et de l'exercice de leur ministère. Parce que on a toujours bénéficié de certains évangélistes, on les a reconnus, c'était des évangélistes. Et chaque fois qu'ils ont voulu faire les pasteurs, ça n'a pas toujours été très bon. Mais chaque fois qu'on leur a permis d'être évangélistes, ça a apporté beaucoup de fruits. On en a eu des comme ça. Mais on croit que de plus en plus qu'il faut permettre à ceux qui sont véritablement des évangélistes de rester des évangélistes. Et de ne pas faire ce pour quoi ils ne sont pas appelés, c'est-à-dire le pastorat. Et donc prendre conscience de ça. Mais forcément, ça demande parfois de bouleverser nos habitudes. Alors, on a par exemple des œuvres comme la mission intérieure. Et la mission intérieure salarie, je ne sais plus combien il y en a en ce moment, un ou deux évangélistes, qui sont soutenus par des caisses régionales pour l'évangélisation. Et c'est une bonne chose. Mais si Dieu fait lever du milieu de nous des évangélistes, des jeunes, nous voulons les soutenir, mais en même temps, il faut se dire, « Ah, frère, ces évangélistes, ils sont pour nous !» Non. Un évangéliste, ce n'est pas pour nous. Il œuvre au milieu de nous, mais si nous le soutenons, c'est aussi pour pouvoir exercer son ministère là où Dieu le conduit. Mais je crois que ça sera une grande bénédiction. Voilà pour les évangélistes, passons au pasteur. Et je vous invite à regarder dans Jean chapitre 10, on fera pareil, on va survoler, voir simplement quelques passages. Jean chapitre 10, évidemment, c'est le passage, c'est le chapitre du berger, le bon berger. Savez-vous que c'est le seul ministère finalement auquel Jésus fait référence quant à sa personne. Il a dit « Je suis le bon berger ». Je devais avoir 7-8 ans peut-être. Et je ne sais plus où c'était. Enfin, je sais que c'était à Bordeaux. Nous étions à Bordeaux. J'étais peut-être un peu plus âgé alors. Non, je devais être au collège déjà. À Bordeaux. Et c'était, je crois, la bibliothèque. Et du coup, pour s'inscrire, la dame me demande « Quelle est la profession de votre papa ?» Je dis « Il est pasteur. » Elle me dit « Ah, il est berger. » C'est la première fois que... J'avais jamais fait, là, gamin, en fait, pas, là. Je dis, berger. L'impression de garder des chèvres ou des moutons. Ça me faisait... Non, on ne fabrique pas des fromages, hein, mais ça faisait bizarre, surtout en plein centre-ville de Bordeaux, vous posez la question. C'est-à-dire, vous arrivez à votre campagne. Bon. Mais Jésus a dit, je suis le bon berger. Et Pierre, vous le savez, dit aussi du Seigneur qu'il est le souverain berger et le gardien de nos âmes. Qu'est-ce qu'un berger? On va le voir plus en détail. Un berger, c'est avant tout quelqu'un qui prend soin. Voilà. Il prend soin et il garde. Ce sont les fonctions fondamentales du berger. Quelques caractéristiques. Premièrement, le berger est un modèle. Paul demandait à Timothée, à qui il avait confié la charge de conduire l'église d'Éphèse, il lui demandait ceci, 1 Timothée 4, 11 à 15, « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Le pasteur doit être un modèle. 1 Pierre 5, « Paissez le troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme en étant les modèles du troupeau. Et être un modèle, ça veut dire aussi que le pasteur exerce un ministère d'influence auprès des membres de l'Assemblée, à travers son caractère, sa piété, sa foi, son enseignement, mais aussi, c'est vrai, c'est pour ça que Paul le demande au niveau des anciens, à travers sa vie familiale, à travers son couple, à travers ses enfants. Ce n'est pas toujours facile. Parfois même très douloureux, vous savez, d'être enfant de pasteur et d'être épouse de pasteur. C'est très, très douloureux, parce que c'est être d'une manière... C'est parfois être très exposé. Vous savez... Souvent, l'épouse, comme les enfants, peuvent entendre les gens qui parlent. Et qui parlent sur leur mari, qui parlent sur leur père. Et ils entendent aussi parfois le papa et la maman qui échangent des choses, les combats, les difficultés. Vous savez, un pasteur qui est un modèle et qui sert Dieu, selon ce que Pierre nous dit là, c'est quelqu'un qui vit quasiment... toute l'année pour les autres. Et qui met quelques heures par semaine, et il doit le faire. Il doit le faire. Il doit mettre quelques heures par semaine de côté pour son épouse et pour ses enfants. Parce qu'il est un père de famille Et on ne peut pas être un bon père de famille, on ne peut pas être un bon pasteur si on n'est pas un bon père de famille. C'est impossible. Mais c'est très exposé, très très exposé. Parfois, beaucoup de responsabilités, hein, beaucoup de charges. On écoute les combats des gens, les difficultés des gens. Et donc, voilà, c'est exigeant. Mais beaucoup de métiers sont exigeants. Beaucoup aujourd'hui, le monde est exigeant. Et le pastorat est exigeant aussi parce que beaucoup de souffrances. Les gens portent beaucoup de souffrances à cause de toutes les blessures. Mais que c'est bon d'être, quand il y a un sentiment de paix, de joie, de respect mutuel, de considération fraternelle dans l'Église. Et c'est quelque chose qui nous permet de grandir ensemble. Le berger est aussi un homme de proximité. Jean 10, 15, Jésus dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Le ministère de pasteur ne peut se développer que dans la proximité et dans le temps. Les pasteurs ne peuvent pas être itinérants. Un évangéliste est itinérant, un docteur peut être itinérant, un pasteur ne peut pas être itinérant. Un pasteur développe une relation privilégiée de long terme avec son église, l'église où le Seigneur l'a établi évêque, et avec les frères et sœurs de l'Assemblée. Il doit s'y attacher. Il doit s'y attacher. Et cet attachement nécessite du temps et de l'implication. Et vous connaissez le proverbe 27, verset 23, « Connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. » C'est intéressant, ce verset nous parle de deux choses, les brebis et les troupeaux. Et on met en évidence deux types de pasteurs qui correspondent à une certaine sensibilité de caractère, mais de ministère. Les pasteurs des brebis, les pasteurs du troupeau. Les pasteurs des brebis prennent le temps de s'attacher aux individus en particulier. Ils sont certainement au milieu du troupeau. C'est une des positions du berger, au milieu du troupeau. Et il y a les pasteurs du troupeau qui vont travailler au niveau de l'ensemble du troupeau pour donner une direction, une vision, et avoir cette vision d'ensemble du troupeau. Et quand on peut avoir les deux points de vue, c'est bon. Un qui est au milieu et qui s'occupe des brebis, de chaque brebis en particulier, et un autre qui est là pour avoir une vision d'ensemble du troupeau, le troupeau et les brebis. Et on sait que souvent, les bergers travaillaient à plusieurs. En plus, ils ont les animaux pour les aider dans tout ça. Et c'est qu'on trouve qui est intéressant dans ce verset. Donc, connais bien chacune de tes brebis, donne soin à tes troupeaux. Le pasteur est aussi un portier. Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte ». Vous le savez peut-être, à l'époque de Jésus, les bergers se couchaient à l'entrée de la bergerie. Ils étaient la porte de la bergerie, qui souvent était un enclos de pierre. Donc, il y avait une entrée, il n'y avait pas de porte, mais la porte, c'était le berger qui se couché en travers, donc nul ne pouvait rentrer ou sortir sans passer par le berger. Et s'il était porte, ça veut dire aussi qu'il faisait office de protection contre les menaces de la nuit. Et le pasteur a pour mission de garder l'église contre les attaques extérieures et intérieures, ou même les menaces. Acte 20, verset 29, c'est le discours de Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, et leur dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et donc là, les bergers ont forcément un rôle très important par rapport aux fausses doctrines, par rapport aux personnes mal intentionnées, et ils sont là pour veiller. Ça se rapproche du ministère, vraiment, de ce que Paul appelle par ailleurs, excusez-moi, les anciens, qui collaborent aussi avec les pasteurs, les évêques. Évêque veut dire surveiller. Voilà, surveiller et faire attention à la bonne santé de l'Église. Autre point, le pasteur est celui qui fait sortir et rentrer le troupeau. Jean 10, verset 9, toujours, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Alors, il est ici question de la mission d'accompagnement spirituel et moral du pasteur à l'égard des chrétiens. Les tâches d'un berger de l'époque de Jésus étaient, un, de défendre les brebis contre les attaquants, deux, soigner et guérir les brebis, 3, retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège. Un pasteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là dans les moments de joie, avec qui on va partager ses joies. Pour certains, c'est un mariage, présentation d'un enfant, et puis toutes sortes de choses de la vie. Et puis le pasteur, c'est aussi, dans le temps, celui avec qui on a partagé aussi les peines, les maladies, souffrances, les difficultés de la vie, parfois les tensions familiales, parfois même le deuil. Donc c'est quelqu'un avec qui on a cette grande intimité, et c'est quelqu'un avec qui on chemine tout au long de la vie. Il nous accompagne. C'est là l'une des grandes missions des pasteurs. Ils nous font entrer, ils nous font sortir, ils nous amènent vers des pâturages. Ils sont là, à l'image de ce bon berger, pour nous accompagner dans la vallée de l'ombre de la mort, quand c'est un moment difficile, mais sinon pour nous amener aussi vers les verts pâturages. Et voilà. Quand il est question de faire sortir et rentrer le troupeau, il est aussi question de leadership. Jean 10, versets 3 et 4, à la fin du verset, il les conduit dehors, fin du verset 3, il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et là, on parle de leadership. Le pasteur doit donner une vision à l'Église. Et il doit amener l'Église dans la direction définie. Mais il doit aussi faire attention au rythme, au pas. Vous connaissez le passage d'Ésaü et de Jacob, quand ils se retrouvent après avoir franchi la rivière, le camp de Manaïm. Ésaü lui dit, allez, viens avec moi, suis-moi. Et puis Jacob ne voulait pas trop suivre son frère, hein, qui était là avec ses 400 hommes. Alors Jacob va lui dire, écoute, je ne peux pas te suivre parce qu'il faut qu'on marche au pas du petit troupeau. Donc c'est un moyen qu'il a trouvé pour lui dire qu'il ne voulait pas le suivre. Mais l'idée est là, il faut comprendre le pas, le rythme de chacun. Certains courent, d'autres marchent, d'autres sont juste débutants, et il faut avoir cette sensibilité. Jésus dit ailleurs, comme on va voir Pierre, il lui dit, il y a mes agneaux et il y a mes brebis. Et l'agneau n'a pas la même force que la brebis, mais il doit conduire, il doit avoir cette vision de l'ensemble du troupeau, le rythme, le bon rythme à donner à l'Église pour qu'elle avance, parce que l'Église doit avancer. Et il doit avancer. Elle ne doit pas être arrêtée. Elle doit avancer. Et puis aussi, bien sûr, le suivi de cette vision partout, savoir cette vision d'ensemble sur le troupeau. Dernier point important, le berger nourrit et garde le troupeau. Vous connaissez le dialogue, là, à la fin de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, Jean 21, 15, entre Jésus et Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Alors ce qui est intéressant dans ce passage, il y a beaucoup de subtilités en grec dans ce passage, mais par trois fois Jésus dit en français, utilise le verbe « paître », mais en fait il utilise deux verbes en grec. Il utilise la première et la troisième fois le verbe « bosco » et la deuxième fois il utilise le verbe « poimeno ».« Poimeno »,« pomen »,« poimen » qui veut dire « berger ».« Bosco », les gens du sud savent, un bosco, ensuite, c'est souvent un gardien. C'est une expression qui existe encore aujourd'hui et qui vient de ce mot grec. Donc, poimeno, verbe poimeno, comprend une idée de surveillance et de soin. Acte 20, 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître, surveiller, prendre soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Le verbe bosco, lui, fait référence par contre à l'idée de nourrir, assurer le bien-être spirituel des membres de l'Église, nourrir. Voilà donc, le ministère pasteur est un ministère clé de l'Église par sa proximité et son attachement avec l'Assemblée. L'évangéliste va chercher les pierres vivantes pour l'édification et le pasteur doit découvrir les qualités de chacune de ces pierres. Elles sont uniques et elles ont une place particulière. Et c'est le ministère du pasteur que de placer ces pierres à l'endroit préparé par le Seigneur dans la construction de l'Église. Pour autant, on ne voit nulle part que le pasteur doit fonctionner seul et selon le modèle « un pasteur, une Église ». Je l'ai expliqué déjà la dernière fois. Pour moi, c'est une déformation, c'est une accentuation, mais qui a néanmoins permis à des générations et des générations entières de chrétiens et de disciples de marcher avec le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'aller plus loin et de considérer ce que la Bible nous dit pour, d'une part, faciliter la croissance de chacun, aller plus loin chacun, et puis aussi alléger. Je pense que si les pasteurs n'étaient que pasteurs, ça allégerait leur charge. Le docteur, je vais aller très vite. Paul était un docteur, mais comme il était apôtre, son ministère apostolique a pris bien sûr le pas sur son ministère de docteur. Celui qui est véritablement le docteur le plus connu du Nouveau Testament, c'est Apollos. Il y a vraiment les premières caractéristiques qu'on trouve chez Paul alors qu'il vient de se convertir, on les retrouve chez Apollos. Ils ont les mêmes caractéristiques de la défense de l'évangile. Tous les deux vont prouver que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Christ. Enfin, on voit les mêmes choses. Ils ont à peu près le même parcours, l'un et l'autre. Ce sont des érudits, ce sont presque des théologiens, donc des hommes qui sont vraiment affermis dans la parole. Les docteurs ont reçu de la part de Dieu un ministère pour clarifier, exposer et proclamer la parole afin d'édifier le corps de Christ. Donc, ils sont là vraiment pour renforcer la cohésion de l'Église et pour amener encore à un niveau plus élevé de connaissance de la parole. Mais ce ministère de docteur ne consiste pas à faire simplement des exposés de doctrine ou des cours de théologie ou à faire des exposés de règles de vie. Mais le ministère du docteur est là pour mettre, et ça c'est quelque chose, le Seigneur m'a souvent interpellé sur ça, pour mettre en évidence ce qui existe déjà dans le cœur des croyants. C'est moins enseigner des préceptes que donner des clés de lecture de la Bible, des clés d'interprétation et des clés de compréhension de la parole de Dieu, mais de compréhension de ce qui est là dans le cœur. J'utilise souvent ces images. Vous savez, les chrétiens souvent font des expériences, vous faites des expériences, notamment les jeunes chrétiens, mais ils, comme Paul le dit par ailleurs, ils n'ont pas le langage spirituel pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un jargon, ce n'est pas ce que je dis, mais savoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Ah, j'ai vécu ça, ça, ça. Allez, on va t'aider. Alors, on va parler de repentance, on va parler de conversion, mais pas simplement pour avoir des grands mots, mais pour comprendre. Comprendre ce qui se passe. Et c'est pareil après pour des doctrines plus avancées. Il y a des choses qui se passent dans le cœur. C'est par exemple pour les dons spirituels, pour le ministère. Et le docteur est là pour amener à comprendre. Je dis souvent que ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un tas de connaissances comme on peut avoir un tas de briques. Avec un tas de briques, vous pouvez avoir un tas de briques ou vous pouvez avoir une maison. Et des chrétiens peuvent avoir autant de connaissances mais qui sont sous une forme d'un tas de briques, que des chrétiens qui ont les mêmes connaissances, mais qui sont dans une maison. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Avoir une maison. Mais pourtant, tous les éléments sont là dans le tas de briques. Ils ont tout dans eux. Et l'un des buts du ministère de l'enseignant, c'est d'aider ces chrétiens à comprendre ce qu'ils ont vécu et à mettre en place dans leur vie, d'une manière ordonnée, toutes ces briques qui sont là, avec lesquelles ils vont bâtir le temple du Saint-Esprit. Jean dit, 1 Jean 2:20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Vous avez de la connaissance. Le Saint-Esprit vous a donné de la connaissance. Il vous donne de la connaissance. Mais le docteur est là, non pas... Bon, il va bien sûr nous apprendre des choses par moment, tout ça. Mais surtout, il est là, comme Paul le dit, pour arroser. Autrement dit, ces choses sont en nous. J'ai planté. Apollos, le docteur, a arrosé. Autrement dit, le ministère d'enseignant ne doit pas être quelque chose de sec et de rébarbatif. Mais la puissance de l'enseignement, du véritable ministère d'enseignant, de docteur, selon Éphésiens 4, c'est d'avoir un ministère d'arrosage. Une pluie. Sa parole est comme une pluie bienfaisante qui vient sur le cœur et qui fait germer, croître, jusqu'à mener le fruit dans la vie des croyants. On n'est pas là pour vous donner des règles, des préceptes, mais pour faire vivre ce qui est dans votre cœur. Gloire à Dieu. Le docteur a donc pour mission de consolider et développer le travail de perfectionnement, de formation, qui a déjà largement été avancé suite au ministère des évangélistes et des pasteurs. Alors, ayant dit tout ceci sur ces trois ministères, je finis maintenant en prenant un peu de recul, en parlant des défis de la mission des ministères d'édification. Donc, ils sont là pour travailler selon la spécificité de leur ministère. L'un va chercher les pierres, l'autre doit les assembler, l'autre, le pasteur doit les connaître, et puis l'autre, le docteur doit consolider tout ça, mettre en place tout ça. Ils doivent bâtir sur le fondement apostolique et prophétique, et ils doivent bâtir avec les matériaux nobles de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Mais avec le temps passant, et les ministères d'édification se succédant, il se trouve bien qu'à un moment, les structures des églises sont posées, consolidées, renforcées, développées. Les ministères ont travaillé. À un tel point que ces structures, cette édification qui est là, paraît être très solide. Et on se demande alors, mais que reste-t-il à édifier ? Et du coup, les ministères d'édification font moins d'édification que de l'entretien, ou éventuellement de la réparation. Mais les choses sont posées, et parfois elles sont posées depuis plusieurs années. À un tel point qu'on va nous dire, mais surtout ne touchez à rien, parce que tout semble bien. Et si les frères qui sont passés avant ont fait du bon travail, c'est vrai. Ils ont bien travaillé sur les fondations, ils les ont bien développées, les chrétiens ont grandi en maturité, en perfectionnement, en service, et les choses semblent bien établies. Seulement avec le temps, quand c'est trop établi, ça finit parfois par se figer. Et donc, pour des ministères d'édification qui arrivent alors dans une assemblée qui peut avoir plusieurs années d'existence, voire plusieurs décennies d'existence, la seule possibilité d'édification qu'il leur reste, c'est de construire en hauteur. Construire toujours plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire, construire toujours plus haut ? Plus de connaissances. Plus d'organisation. Du développement, mais plus que de la croissance. On développe, mais ce n'est pas forcément de la croissance. Et donc, les églises, c'est l'image qui m'est venue, pour les gens du sud, les églises, elles deviennent comme des campaniles, et pour les gens du nord, elles deviennent comme des beffrois. Qu'est-ce que c'est qu'un campanile ou un beffroi ? Eh, c'est ces espèces de tours qui, à côté des, notamment dans le sud, à côté des vieilles églises romanes, ou alors on en avait en Italie, dans le nord, c'est les beffrois. Voilà. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est l'idée que c'est quelque chose qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Généralement, c'est assez solide. Il n'y a pas de souci. C'est assez solide. Bon. Mis à part si vous êtes à Pise. Là, ça prend... Ça s'incline. Mais enfin, c'est quand même solide, même si c'est à Pise. Mais ce qui est clair, c'est qu'un campanile ou un beffroi, c'est assez étroit. C'est solide. Mais c'est étroit. Et il y a des églises qui ont tendance à ressembler à ça. Parce que les pasteurs vont arriver, ou les ministères d'édification, pardon, puis puisque tout est déjà établi, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. Si tout était bien établi, ben la seule chose à faire, on va rajouter un étage de plus. Et donc, on va aller dans, voilà, comme je disais, plus de connaissances, plus d'organisation, plus de développement, plus de ceci, plus de cela. Le risque, c'est de sombrer dans le syndrome de l'église d'Éphèse. Première lettre aux églises d'Asie, le syndrome de l'église d'Éphèse. Oh, tu as éprouvé les faux docteurs. Tu es resté fidèle, dit le Seigneur. Ah, tout ça, c'est vrai. L'église solide. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu cet amour qui animait ton cœur comme au début. Cet amour, cette passion, cette vie qui était là, tu es en train de la perdre. Et le Seigneur lui dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, j'ôterai ton chandelier. J'ôterai cette lumière. Et ça, c'est le syndrome de l'église d'Éphèse, une église solide théologiquement, mais une église qui perd sa vie et sa puissance. Et c'est le cas de nombreuses églises qui ont parfois plusieurs décennies de fonctionnement, qui ont vu de nombreux ministères d'édification se succéder. Et parfois, certains de ces ministères d'édification ont été tellement puissants qu'ils ont élevé bien haut l'édifice de l'Église, tellement haut, par leur ministère, par leur enseignement, par l'organisation, que celui qui vient après, il se demande comment il fait pour atteindre là-haut. C'est tellement haut en connaissance. C'est tellement haut en organisation que j'arrive pas à l'atteindre. Et qu'est-ce que ça engendre ? Des frustrations. Des frustrations, les frères qui servent, comme chez les chrétiens, et des critiques. Ah oui, vraiment, il n'est pas à la hauteur de celui qui était avant. Mais ça construit tellement haut, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ensuite ? Pour ajouter quelque chose, un étage, à ce qui a été construit avant, mais il faut des échafaudages, on n'en finit plus. Quel est le risque alors ? Le risque du déclin de l'Église. D'autres ministères d'édification ont tellement marqué l'œuvre par des décennies et des décennies de ministères que tout est imprégné de leur présence et de leur caractère. Tout est la copie conforme du ministère d'édification. C'est ce que j'appelle une stratification. Voilà, on a une strate. Et c'est là. C'est le danger auquel nous faisons face dans nos églises, qui commence pour certaines à avoir 50, 60, 70 ans. La nôtre, l'année prochaine, aura 80. Et à cause de cette difficulté, beaucoup de jeunes pasteurs, de jeunes docteurs, jeunes serviteurs de Dieu disent « Avant de reprendre une église comme ça, il vaut mieux réfléchir deux fois. Vaut mieux parfois démarrer une œuvre entièrement que d'aller prendre cette espèce de paquebot qu'on ne sait pas par où le prendre et qu'on ne sait pas quoi faire parce que de toute façon tout est fait. Si je veux être gentil, je vais dire, il faut alors oser la transition. Si je veux être un peu plus punchy, je vais dire, il faut oser déconstruire pour reconstruire. Pour que les ministères d'édification puissent encore bâtir et accomplir leur ministère, et ne pas simplement faire de l'entretien, ce qui est quand même assez frustrant. Vous savez que ça arrive tellement souvent qu'on demande à certains, vous faites l'entretien, hein, vous touchez à rien, l'entretien. C'est pas encore tellement dans nos églises françaises, on y échappe, mais on me disait encore il n'y a pas longtemps, dans certaines églises anglo-saxonnes, et c'est le cas dans les églises notamment en Angleterre, tout est codifié. Pasteur, vous venez, vous avez 10 minutes de prédication. Vous ne pouvez rien changer, c'est comme ça. Oh, mais c'est dans les règles de l'église qui ont été écrites il y a 400 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bâtir et ne pas simplement entretenir, il faut donc qu'il y ait encore quelque chose à bâtir. On va non pas rajouter un étage supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se donner de l'air. Il faut alors apporter une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Mais comment, quand tout semble bâti, établi, fixé, parfois même figé ? Premièrement, en revenant à la base. Ça ne sert à rien de vouloir rajouter un étage. Il faut revenir à la base et redéfinir une vision pour l'Église. Et oser poser de nouvelles fondations. Non pas forcément à la place des premières. Il ne s'agit pas de tout raser, de tout balayer. Mais il s'agit d'apporter quelque chose de nous, d'élargir les fondations qui ont été posées auparavant. Et on dit, mais le ministère d'édification, ce n'est pas un apôtre. S'il peut bénéficier du ministère d'un apôtre, tant mieux, s'il fonctionne d'après mon modèle apostolique. Mais s'il n'y a pas d'apôtre, eh bien, il doit avoir cette audace. Philippe était diacre, il est devenu évangéliste. Et au moment d'avoir cette audace de dire, Seigneur, dans cette église dans laquelle tu m'as établi pour édifier, il faut quand même passer par la case de la fondation, refonder, apporter quelque chose de nouveau et de croire que Dieu est capable de le bénir. Ça veut dire qu'il faudra oser franchir les limites de son ministère et parfois ses propres limites, comme je le disais au sujet de Philippe. Ensuite, et c'est là que c'est difficile, parce que tant qu'il s'agit de poser de nouvelles fondations, ok, le frère, il a une nouvelle vision, on va le laisser faire. Non, et c'est là que c'est compliqué. C'est qu'il ne s'agit pas sur une nouvelle fondation de bâtir une église à côté de la première église. Ça serait ridicule, non ? Parce que certains pourraient se dire, voilà, il y a les fondations anciennes et la construction ancienne. Bon, le frère, c'est bien, il apporte une nouvelle vision. Et sur sa nouvelle vision, sa nouvelle fondation, il va faire une église à côté. Non, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il va devoir ouvrir l'édifice. Comme une opération chirurgicale. Il va devoir ôter les structures. Évidemment, je dis que c'est difficile parce que ça remet en cause des années, parfois des décennies de fonctionnement. Le frère qui faisait chanter depuis 30 ans les cantiques des ailes de la foi tous les dimanches matins, et on va le bouger. Je rigole, mais c'est parfois des drames. Et c'est encore plus un drame quand il faut passer d'un vieux machin à un piano un peu plus moderne ou quoi. Et ça se joue des fois sur des choses comme ça. Mais il faut ouvrir. Et c'est là qu'il y a les tensions. C'est là qu'il y a les tensions. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des églises, on n'a pas ça sur Paris, donc on ne comprend pas. Mais dans la plupart des églises, vous avez des églises qui sont constituées de familles sur 2-3 générations. Vous touchez à quelqu'un, il y a tout le monde qui s'en va, s'il n'est pas content. Nous, on ne connaît pas ça. C'est rare ici des familles de déjà 2 générations, c'est beaucoup, 3 générations, vous n'êtes pas nombreux. Hein. Et on est là, on est établi, mais ces gens sont honnêtes, il n'y a pas de problème, ils sont des serviteurs de Dieu, ils ont aimé leur église, ils ont porté leur église. Et ça demande au ministère d'édification qui veut apporter quelque chose, qui veut édifier, pas simplement faire l'entretien, ça demande beaucoup de courage. Ça demande du courage d'oser bouger les structures de l'église. Ça ne veut pas dire qu'il va rejeter les pierres. Certaines pierres seront vraiment état d'usure maximale. C'est bien, elles ont servi. Maintenant, il faut peut-être en mettre d'autres. C'est douloureux à faire, attention. Hein. Et puis après, il va falloir rebâtir avec des nouvelles pierres. Et c'est comme ça qu'il élargit. C'est comme ça qu'il... Ça ne veut pas dire voilà, qu'il fait table rase de tout, mais là où il doit apporter, là où il sent que le Saint-Esprit lui dit, ta vision, elle va dans ce sens. Ça veut dire qu'il va falloir que tu abattes ce mur. Même si c'est un beau mur, qui a une belle histoire, il va falloir qu'il ait le courage. Mais ce n'est pas évident, croyez. Ça peut entraîner beaucoup de tensions, des cassures, des gens qui peuvent parfois ne pas comprendre, se sentir offusqués, brisés. C'est très douloureux. Mais si ce n'est pas fait, on ne fera que de l'entretien. Mais bien sûr, ça doit être fait avec un véritable leadership, patient, constructif. On n'est pas là pour détruire, mais parce qu'il y a un projet. Donc, accompagné de quoi? Accompagné d'une vision réelle et non pas de rêve, mais d'une vision apostolique solide. L'Église doit avoir l'impression, pasteur, il va nous faire faire des trucs pas possibles, mais voilà, on le suit parce qu'il a une autorité spirituelle dans l'enseignement, dans la vision, la prière, il construit, il travaille avec les gens. Et on a envie d'aller dans ce sens. C'est parfois un choc générationnel, mais c'est nécessaire. Et s'engager dans un tel processus est un immense défi tant pour les ministères d'édification qui ne sont pas forcément préparés à cela. Mais je crois que c'est aussi de ce processus que sortiront des églises renouvelées, transformées. C'est douloureux. Tout processus de transformation, de réinvention est douloureux. Mais ne pas l'accepter, le refuser, c'est transformer l'Église non pas simplement en monument, mais en mouroir. Et c'est comme ça qu'à la fin, qu'on a des églises de Sardes. Ah, autrefois, il y avait un pupitre, une réputation, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ça demande du courage. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des apôtres. Parce que quand il y a des apôtres qui sont là, des hommes accompagnés, des prophètes qui ont cette l'une dimension de la parole, l'autre dimension de l'esprit, eh bien ça soulage les ministères d'édification. Parce que quand c'est un homme, une dimension apostolique qui vient, qui parle, qui avec son expérience, son autorité spirituelle montre une voie, bon, ok, on a compris, ça va, c'est bon. Mais quand c'est un ministère d'édification qui n'a pas forcément l'expérience apostolique, la dimension apostolique, qui va devoir s'engager à ça, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais que le Seigneur permette encore à nos églises de se réinventer. Parce qu'il y a tellement de belles choses à écrire. Et qu'il donne du courage aux uns et aux autres. Et surtout qu'il nous aide par sa grâce et son esprit à aller dans ce sens. Gloire à Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tous les ministères que tu donnes à ton Église, pour que celle-ci puisse, Seigneur, grandir en maturité, en qualité, en expérience pour le service de Dieu. Et nous voulons que nos Églises restent vivantes, qu'elle repose toujours sur le fondement des apôtres et de Jésus-Christ, celle qui nous a été transmise par nos pères, mais qu'elle soit aussi, Seigneur, avec une vision et une fondation pour cette génération. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions sans cesse être sensibles à la vision que tu veux donner à notre assemblée. Nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, pour bâtir des murs qui deviennent comme des murailles indestructibles. Nous voulons garder, Seigneur, la souplesse du tabernacle et être capable, Seigneur mon Dieu, comme ta parole le dit, d'étendre nos cordages, de garder cette souplesse au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons honorer ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé, qui ont établi, parce que, Seigneur, sans ce qu'ils ont accompli, nous n'en serions pas là. Et Seigneur, la meilleure manière de les honorer, c'est d'amener l'œuvre encore plus loin. Je te prie, Seigneur, de nous donner toute la sagesse qui convient, non seulement pour notre assemblée, mais pour nos églises en France. Qu'il y ait vraiment un renouveau d'églises qui avancent avec une vision, d'églises qui ne sont plus dans l'entretien, dans la réparation, mais qui sont là vraiment dans l'édification, qui ne se contentent pas simplement d'ajouter un étage de plus, mais qui veulent au contraire s'étendre dans la ville. Merci Père pour les hommes que tu appelles à ce ministère et nous te prions pour que, comme tu le dis Seigneur, de lever des ouvriers pour la moisson, des ouvriers qualifiés par la parole, par le Saint-Esprit. Et puis Seigneur mon Dieu, donne-nous la sagesse quand nous exerçons notre ministère, donne-nous d'être des hommes de cœur, des hommes de l'esprit, des hommes de foi, des hommes qui sont comme des modèles. Merci pour aussi nos épouses qui sont là à nos côtés, première compagne dans l'œuvre. Merci Seigneur de bénir nos familles. Merci de bénir nos frères et sœurs. Que tous ensemble, nous soyons vraiment un corps uni, avec ce désir de faire briller le nom de Jésus-Christ dans cette ville. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.